Chapitre 29. Le caisson. Je marchais, je courais dans la rue du Faubourg Saint-Denis, emporté par la crainte d'arriver trop tard et un peu par la pente de la rue. Je faisais passer et repasser devant mes yeux les tableaux qu'ils venaient de voir. Je les resserrais dans mon âme, je les résumais, je les plaçais entre le point de vue et le point de distance. Je commençais sur eux ce travail d'optique philosophique auquel je soumets toute la vie. J'allais vite, ma tête et ma canne en avant. Les verres de mon optique étaient arrangés. Mon idée générale enveloppait de toutes parts les objets que je venais de voir et que j'y rangeais avec un ordre sévère. Je construisais intérieurement un admirable système sur les voies de la Providence qui avait réservé un poète pour un temps meilleur et avait voulu que sa mission sur la terre fût entièrement accomplie, que son cœur ne fût pas déchiré par la mort de l'une de ses faibles femmes, toutes deux enivrées de sa poésie, éclairées de sa lumière, animées par son souffle, émues par sa voix, dominées par son regard, et dont l'une était aimée et dont l'autre le serait peut-être un jour. Je sentais que c'était beaucoup d'avoir gagné une journée dans ces temps de meurtre. Je calculais les chances du renversement du triumvirat et du comité de salut public. Oh, je lui comptais peu de jours de vie, et je pensais bien pouvoir faire durer mes trois chers prisonniers plus que cette bande gouvernante. Et de quoi s'agissait-il, de les faire oublier? Nous étions aux cinq thermidors. Je réussirais bien à occuper d'autre chose que d'eux, mon second malade. Robespierre, quand je devrais lui faire croire qu'il était plus mal encore, pour le ramener à lui-même. Il s'agissait pour tout cela d'arriver à temps. Je cherchais inutilement une voiture des yeux. Oh, il y en avait peu dans les rues cette année-là. Malheur à qui eût osé s'y faire rouler sur le pavé brûlant de l'an 2 de la République. Cependant, j'entendis derrière moi le bruit de deux chevaux et de quatre roues qui me suivaient et s'arrêtèrent. Je me retournai et je vis planer au-dessus de ma tête la bénigne figure de Blaireau. « Oh, figure endormie, figure longue, figure simple, figure dandinante, figure désœuvrée, figure jaune, que me veux-tu » m'écriai-je. « Pardon si je vous dérange, » me dit-il en ricanant, « mais j'ai là un petit papier pour vous. C'est la citoyenne Rose qui l'a trouvé, comme ça, sous son pied. » Il s'amusait en parlant à frotter son grand soulier dans le ruisseau. Je pris le papier avec humeur et je lus avec joie et avec l'épouvante si grande du danger passé. Suite. CLS Soyeucourt, âgée de 30 ans, née à Paris, ex-baronne, veuve d'Isdal, rue du Petit Chevaux-Girard. FCL Maillet, âgée de 17 ans, fils de l'ex-vicomte. André Chénier, âgé de 31 ans, né à Constantinople, homme de lettres, rue de Cléry. Créqui de Montmorency, âgé de 60 ans, né à Schitzenberg, en Allemagne, ex noble. M. Béranger, âgé de 24 ans, femme Bouvillier-Saint-Aignan, rue de Grenelle, Saint-Germain. L. J. Dervilly, 43 ans, épicier rue Mouffetard. F. Coigny, 16 ans et 8 mois, fille de l'ex-noble du nom, rue de l'Université. C. J. Dorival, ex-ermite. Et 20 autres noms encore. Je ne continuais pas, c'était le reste de la liste. C'était la liste perdue, la liste que l'imbécile commissaire avait cherchée dans son chapeau d'ivrogne. Je la déchirais, je la broyais, je la mis en 1000 pièces entre mes doigts, et je mangeais les pièces entre mes dents. Ensuite, regardant mon grand canonnier, je lui serrai la main avec « oui, ma foi, je puis le dire, oui, vraiment, avec attendrissement. »« Bah !» dit Stello, en se frottant les yeux. « Oui, avec attendrissement, Et lui, il se grattait la tête comme un grand nain dédié désœuvré, et me dit en ayant l'air de s'éveiller: « C'est drôle, lui, il paraît que l'huissier, le grand pâle, s'est fâché contre le commissaire, le gros rouge, l'a mis dans sa charrette, à la place des autres détenus. C'est drôle !»« Mais bien, mort supplémentaire, dis-je, c'est juste. Mais où vas-tu ? Oh, je conduis ce caisson-là au Champ de Mars. » « Tu me mèneras bien, dis-je au rue Saint-Honoré. Oh, mon Dieu, bonté, qu'est-ce que ça me fait ? Je dis, le roi n'est pas... » C'était son mot, mais il n'acheva pas et se mordit la bouche. Le soldat du train attendait son camarade. Le camarade Blaireau retourna en boitant au caisson, en ôta la poussière avec la manche de son habit, commença par monter, se plaçait dessus à cheval, me tendit la main, me mit derrière lui en croupe sur le caisson, et nous partîmes au galop. J'arrivai en 10 minutes rue Saint-Honoré, chez Robespierre, et je ne comprends pas encore comment il s'est fait que je n'y sois pas arrivé écartelé. Chapitre 30. La porte cochère fermée, les persiennes de tous les étages fermées. On n'entendait sortir aucune voix de cette maison. Elle semblait aveugle et muette. Des groupes de femmes, causant devant les portes, comme toujours à Paris durant les troubles, se montraient de loin cette maison et se parlaient à l'oreille. De temps à autre, la porte s'ouvrait pour laisser passer un gendarme sans culotte ou un espion, souvent femelle. Alors les groupes se séparaient et les parleurs rentraient vite chez eux. Les voitures faisaient un demi-cercle et passaient au pas devant la porte. On avait jeté de la paille sur le pavé. On eût dit que la peste y était. Aussitôt que j'eus posé la main sur le marteau, la porte fut ouverte et le portier accourut avec frayeur, craignant que son marteau ne fût retombé trop lourdement. Je lui demandai sur le champ s'il n'était pas venu un vieillard de telle ou telle façon, décriva M. de Chénier de mon mieux. Le portier prit une figure de marbre avec une promptitude de comédien. Il secoua la tête négativement. « Vous n'avez pas vu ça ?» dit-il. J'insistai, je lui dis. « Mais souvenez-vous bien de tous ceux qui sont venus ce matin. » Je le pressais, je l'interrogeais, je le retournais en tous sens. « Je n'ai pas vu ça. » Voilà tout ce que j'en pus tirer. Un petit garçon déguenillé se cachait derrière lui et s'amusait à jeter des cailloux sur mes bas de soie. Je reconnus celui qu'on m'avait envoyé à son air méchant. Je montai chez l'incorruptible par un escalier assez obscur. Les clés étaient sur toutes les portes. On allait de chambre en chambre sans trouver personne. Dans la quatrième seulement, deux nègres assis et deux secrétaires écrivant éternellement sans lever la tête. Je jetai un coup d'œil en passant sur leur table. Il y avait là terriblement de listes nominales. Cela me fit mal à la plante des pieds, comme la vue du sang et le bruit des chariots. Je fus introduite en silence, après avoir marché silencieusement, sur un tapis silencieux, aussi quoique fort usé. La chambre était éclairée par un jour blafard et triste. Elle donnait sur la cour et de grands rideaux d'un vert sombre en atténuaient encore la lumière, en assourdissaient l'air, en épaississaient les murailles. Le reflet du mur de la cour frappé de soleil éclairait seul cette grande chambre. Sur un fauteuil de cuir vert, devant un grand bureau d'acajou, mon second malade de la journée était assis, tenant un journal anglais d'une main et de l'autre faisant fondre le sucre dans une tasse de camomille avec une petite cuillère d'argent. Oh, vous pouvez très bien vous représenter, Robespierre. On voit beaucoup d'hommes de bureau qui lui ressemblent et aucun grand caractère de visage n'apportait l'émotion avec sa présence. Il avait 35 ans, la figure écrasée entre le front et le menton, comme si deux mains eussent voulu les rapprocher de force au-dessus du nez. Ce visage était d'une pâleur de papier mat et comme plâtré. La grêle de la petite vérole y était profondément empreinte. Le sang ni la bile n'y circulait. Ses yeux petits, mornes, éteints, ne regardaient jamais en face et un clignotement perpétuel et déplaisant les rapetissait encore quand par hasard ses lunettes vertes ne les cachaient pas entièrement. Sa bouche était contractée convulsivement par une sorte de grimace souriante, pincée, ridée, qui le fit comparer par Mirabeau à un chat qui a bu du vinaigre. Sa chevelure était pimpante, pompeuse et prétentieuse. Ses doigts, ses épaules, son cou étaient continuellement et involontairement crispés, secoués et tordus, lorsque de petites convulsions nerveuses et irritées venaient le saisir. Il était habillé dès le matin, et je ne le surpris jamais en négligé. Ce jour-là, un habit de soie jaune rayé de blanc, une veste à fleurs, un jabot, des bas de soie blanc, des souliers à boucles lui donnaient un air fort galant. Il se leva avec sa politesse accoutumée et fit deux pas vers moi, en ôtant ses lunettes vertes qu'il posa gravement sur sa table. Il me salua en homme comme il faut, s'assit encore et me tendit la main. Moi, je ne la pris pas comme d'un ami, mais comme d'un malade, et relevant ses manchettes, je lui tâtai le pouls. « Oh, de la fièvre, dis-je. Cela n'est pas impossible, dit-il en pinçant les lèvres. Et il se leva brusquement, fit deux tours dans la chambre, avec un pas ferme et vif, en se frottant les mains. Puis il dit « Bon !» et s'assit. « Mettez-vous là, dit-il, citoyen, et écoutez cela, n'est-ce pas étrange ?» À chaque mot, il me regardait par-dessus ses lunettes vertes. « Non, n'est-ce pas singulier, qu'en pensez-vous ? Ce petit duc d'York qui me fait insulter dans ses papiers. » Il frappait de la main sur la Gazette anglaise et ses longues colonnes. Voilà une fausse colère, me dis-je, mettons-nous en garde. Le tyran, poursuivit-il d'une voix aigre et criarde, les tyrans peuvent supposer la liberté nulle part. C'est une chose humiliante pour l'humanité. Voyez cette expression répétée à chaque page. Quelle affectation! Et il jeta devant moi la Gazette. « Voyez, continua-t-il en me montrant du doigt le mot indiqué, voyez Robespierre's army, Robespierre's troops, comme si j'avais des armées, comme si j'étais roi, moi, comme si la France était Robespierre, comme si tout venait de moi et retournait à moi. Les troupes de Robespierre, mais quelle injustice, quelle calomnie, hein ?» Puis reprenant sa tasse de camomille et relevant ses lunettes vertes pour m'observer en dessous, « J'espère qu'ici on ne se sert jamais de ces incroyables expressions. Vous ne les avez jamais entendues, n'est-ce pas ?»« Cela se dit-il dans la rue ?»« Non, c'est Pitt lui-même qui dicte cette opinion injurieuse pour moi, qui me fait donner le nom de dictateur en France. » Les contre-révolutionnaires, les anciens dantonistes et les hébertistes qui restent encore à la Convention, les fripons comme l'Herbina, que je dénoncerai à la tribune, des valets de George d'Angleterre, des conspirateurs qui veulent me faire haïr par le peuple parce qu'ils savent la pureté de mon civisme et que je dénonce leurs vices tous les jours, des Verrès, des Catilina qui n'ont cessé d'attaquer le gouvernement républicain comme des moulins, Ronsin et Chaumette. Mais ces animaux immondes qu'on nomme des rois sont bien insolents de vouloir me mettre une couronne sur la tête. Est-ce pour qu'elle tombe comme la leur un jour? Il est dur qu'ils soient obéis par de faux républicains, par des voleurs qui me font des crimes de mes vertus. Il y a 6 semaines que je suis malade, vous le savez bien, et que je ne parais plus au comité de salut public. Et où donc est ma dictature? N'importe, la coalition qui me poursuit la voie partout. Je suis un surveillant trop incommode et trop intègre. Cette coalition a commencé dès le moment de la naissance du gouvernement. Elle réunit tous les fripons et les scélérats. Elle a osé faire publier dans les rues que j'étais arrêté. Tué, oui, mais arrêté. Oh non, je ne le saurais pas. Cette coalition a dit toutes les absurdités que Saint-Just voulait sauver l'aristocratie parce qu'il est né noble. Et qu'importe comment il est né, s'il vit et meurt avec les bons principes. N'est-ce pas lui qui a proposé et fait passer à la Convention le décret du bannissement des ex-nobles en les déclarant ennemis irréconciliables de la Révolution? Cette coalition a voulu ridiculiser la fête de l'être suprême et l'histoire de Catherine Théos. Cette coalition, contre moi seul, m'accuse de tous les morts, ressuscite tous les stratagèmes des Puissotins. Mais ce que j'ai dit le jour de la fête valait cependant mieux que les doctrines de Chaumette et de Fouché, n'est-ce pas? Je fis un signe de tête. Il continua. Je veux voir qu'on ôte des tombeaux leur maxime impie, que la mort est un sommeil pour y graver. La mort est le commencement de l'immortalité. Je vis dans ces phrases le prélude d'un discours prochain. Il en essayait les accords sur moi dans la conversation, à la façon de bien des discoureurs de ma connaissance. Il sourit avec satisfaction et but sa tasse. Il la replaça sur son bureau avec un air d'orateur à la tribune, et comme je n'avais pas répondu à son idée, il y revint par un autre chemin, parce qu'il lui fallait absolument réponse et flatterie. Je sais que vous êtes de mon avis, citoyen, pas que vous ayez bien des choses des hommes d'autrefois. Mais vous êtes pur, c'est beaucoup. Je suis bien sûr, du moins, que vous n'aimeriez pas plus que moi le despotisme militaire. Et si vous ne m'écoutez pas, vous le verrez arriver. Il prendra les rênes de la Révolution s'il les laisse flotter et renversera la représentation avilie. Ah, ceci me paraîtrait juste, citoyen, répondis-je. En effet, ce n'était pas si mal et c'était prophétique. Il fit encore son sourire de chat. Vous aimeriez encore mieux mon despotisme à moi, j'en suis sûr, hein? Je dis en grimaçant aussi, avec tout le vague qu'on peut mettre dans ces mots flottants. Mais ce serait, continua-t-il, d'un citoyen, d'un homme votre égal, qui serait arrivé par la route de la vertu, et qui n'a jamais eu qu'une crainte, celle d'être souillé par le voisinage impur des hommes pervers, qui s'introduisent parmi les sincères amis de l'humanité. Il caressait de la langue et des lèvres cette jolie petite longue phrase comme un miel délicieux. « Vous avez, dis-je, beaucoup moins de voisins présents, n'est-ce pas ? On ne vous conduit guère. » Il se pinça les lèvres et plaça ses lunettes vertes droit sur les yeux pour cacher le regard. « Mais parce que je vis dans la retraite, dit-il, depuis quelque temps, mais je n'en suis pas moins calomnié. » Tout en parlant, il prit un crayon et griffonna quelque chose sur un papier. J'ai appris, 5 jours après, que ce papier était une liste de guillotines et ce quelque chose, mon nom. Il sourit et se pencha en arrière. « Hélas, oui, calomnié, poursuivit-il. Car, à parler sans plaisanterie, je n'aime que l'égalité, comme vous le savez. » Et vous devez le voir plus que jamais à l'indignation que m'inspirent ces papiers émanés des arsenaux de la tyrannie. » Il froissa et foula avec un air tragique ses grands journaux anglais, mais je remarquai bien qu'il se gardait de les déchirer. « Ben, Maximilien, me dis-je, tu les reliras seul plus d'une fois et tu baiseras ardemment ces mots superbes et magiques pour toi, les troupes de Robespierre. » Après sa petite comédie et la mienne, il se leva et marcha dans sa chambre en agitant convulsivement ses doigts, ses épaules et son cou. Je me levai et marchai à côté de lui. « Je voudrais vous donner ceci à lire avant de vous parler de ma santé, dit-il, et en causer avec vous. Vous connaissez mon amitié pour l'auteur. C'est un projet de Saint-Just. Vous verrez, j'attends ce matin, nous en causerons. Il doit être arrivé à Paris à présent, ajouta-t-il en tirant sa montre. Je veux le savoir, allez, asseyez-vous et lisez ceci, je reviendrai. Il me donna un gros cahier, chargé d'une écriture hardie et hâtée, et sortit brusquement comme s'il se fût enfui. Je tenais le cahier, mais je regardais la porte par laquelle il était sorti, et je réfléchissais à lui. Je le connaissais de longue date. Aujourd'hui, je le voyais étrangement inquiet. Il allait entreprendre quelque chose ou craignait quelque entreprise. J'entrevis dans la chambre où il passait les figures d'agents secrets que j'avais vues plusieurs fois à ma suite, et je remarquai un bruit de pas, comme de gens qui montaient et descendaient sans cesse depuis mon arrivée. Les voix étaient très basses. J'essayais d'entendre, mais vainement, et je renonçais à écouter. J'avoue que j'étais plus près de la crainte que de la confiance. Je voulus sortir de la chambre par où j'étais entré, mais, soit méprise, soit précaution, on avait fermé la porte sur moi. J'étais enfermé. Quand une chose est décidée, je n'y pense plus. Je m'assis et je parcourus ce brouillon avec lequel Robespierre m'avait laissé en tête à tête. Chapitre 31. Un législateur. Ce n'était rien, monsieur, moins que des institutions immuables, éternelles, qui s'agissait de donner à la France, et lestement préparées pour elle par le citoyen Saint-Just, âgé de 26 ans. Je lus d'abord avec distraction. Puis les idées me montèrent aux yeux et je fus stupéfait de ce que je voyais. « Ô naïf massacreur, ô candide bourreau !» m'écriai-je involontairement. « Que tu es un charmant enfant ! Et d'où viens-tu, beau berger ? Serait-ce pas de l'Arcadie ? De quel rocher descendent tes chèvres, ô Alexis ?» Et en parlant ainsi, je lisais. On laisse les enfants à la nature. Les enfants sont vêtus de toile en toutes les saisons. Ils sont nourris en commun et ne vivent que de racines, de fruits, de légumes et de laitage. Les hommes qui auront vécu sans reproche porteront une écharpe blanche à 60 ans. L'homme et la femme qui s'aiment sont époux. S'ils n'ont point d'enfants, ils peuvent tenir leur engagement secret. Tout homme âgé de 21 ans est tenu de déclarer dans le temple quels sont ses amis. Les amis porteront le deuil l'un de l'autre. Les amis creusent la tombe l'un de l'autre. Les amis sont placés les uns près des autres dans les combats. Celui qui dit qu'il ne croit pas à l'amitié ou qui n'a pas d'amis est banni. Un homme convaincu d'ingratitude est banni. Quelles émigrations, dis-je. Si un homme commet un crime, ses amis sont bannis. Les meurtriers seront vêtus de noir toute leur vie et seront mis à mort s'ils quittent cet habit. Âme innocente et douce, m'écriai-je, que nous sommes ingrats de t'accuser. Mais tes pensées sont pures comme une goutte de rosée sur une feuille de rose, et nous nous plaignons pour quelques charretées d'hommes que tu nous envoies au couteau chaque jour à la même heure. Et tu ne les vois seulement pas, ni ne les touches, bon jeune homme. Tu écris seulement leur nom sur du papier. Moins que cela, tu vois une liste et tu signes. Moins que cela encore, tu ne la lis pas et tu signes. Ensuite, je ris longtemps et beaucoup, du rire joyeux que vous savez, en parcourant ces institutions dites républicaines et que vous pourrez lire quand vous voudrez. Ces lois de l'âge d'or auxquelles ce béat cruel voulait ployer de force notre âge d'airain. Robe d'enfant dans laquelle il voulait faire tenir cette nation grande et vieillie. Et pour l'y fourrer, il lui coupait la tête et les bras. Lisez cela, vous ne pourrez plus à votre aise que je le pouvais dans la chambre de Robespierre. Et si vous pensez, avec votre habituelle pitié, que ce jeune homme était à plaindre, en vérité, vous me trouverez de votre avis cette fois. Car la folie est la plus grande des infortunes. Hélas, il y a des folies sombres et sérieuses, qui ne jette les hommes dans aucun discours insensé, qui ne les sorte guère du ton accoutumé du langage des autres, qui laisse la vue claire, libre et précise de tout, hors celle d'un point sombre et fatal. Ces folies sont froides, ces folies sont posées et réfléchies. Elles singent le sens commun à s'y méprendre. Elles effraient et imposent, elles ne sont pas facilement découvertes. Leur masque est épais, mais elles sont. Et que vaut-il pour les donner? Oh, un rien, un petit déplacement imprévu, dans la position d'un rêveur trop précoce. Prenez au hasard, au fond d'un collège, quelques grands jeunes hommes de 18 à 19 ans, tout plein de ces spartiates et de ces romains, délayés dans de vieilles phrases, tout roides de son droit ancien et de son droit moderne. Te connaissant du monde actuel et de ses mœurs que ses camarades et leurs mœurs, bien irrités de voir passer des voitures où ils ne montent pas, méprisant les femmes parce qu'ils ne connaissent que les plus viles, et confondant les faiblesses de l'amour tendre et élégant avec les dévergondages crapuleux de la rue, jugeant tout un corps d'après un membre, tout un sexe d'après un être, et s'étudiant à former dans sa tête quelque synthèse universelle, bonne à faire de lui un sage profond pour toute sa vie, prenez-le dans ce moment et faites-lui cadeau d'une petite guillotine en lui disant: « Allez, mon petit ami, voici un instrument au moyen duquel vous vous ferez obéir de toute la nation. Il ne s'agit que de tirer cela et de pousser ceci. C'est bien simple. » Après avoir un peu réfléchi, il prendra d'une main son papier d'écolier et de l'autre le joujou. Et voyant qu'en effet, on a peur, il tirera et poussera jusqu'à ce que l'on écrase lui et sa mécanique. Et à peine s'il sera un méchant homme. Non, il sera même à la rigueur un homme vertueux. Mais c'est qu'il aura lu tant de beaux livres, Juste sévérité, salutaire massacre, etc., et de vos plus chers parents saintement homicides, et périsse l'univers plutôt qu'un principe, et surtout la vertu expiatrice de l'effusion du sang. Il est monstrueuse, fille de la crainte, que ma foi, il croit en lui, et tout en répétant à lui-même: Justum et tenacem propositi virum. Il arrive à l'impassibilité des douleurs d'autrui, il prend cette impassibilité pour grandeur et courage, et il exécute. Tout le malheur sera dans le tour de roue de la fortune qu'il aura mise en haut et lui aura trop tôt donné cette chose fatale entre toutes, le pouvoir. Chapitre 32. Sur la substitution des souffrances expiatoires. Ici, le docteur Noir s'interrompit et reprit après un moment de stupeur et de réflexion. Un des mots que ma bouche vient de prononcer m'a tout à coup arrêté, monsieur, et me force de contempler avec effroi deux pensées extrêmes qui viennent de se toucher et de s'unir devant moi sur mes pas. En ce temps-là même dont je parle, au temps du vertueux Saint-Just, car il était, dit-on, sans vice, sinon sans crime, vivait et écrivait un autre homme vertueux, implacable adversaire de la Révolution. Cet autre esprit sombre, esprit falsificateur, je ne dis pas faux, car il avait conscience du vrai, cet esprit obstiné, impitoyable, audacieux et subtil, armé contre le sphinx, jusqu'aux ongles et jusqu'aux dents, de sophismes métaphysiques et énigmatiques, cuirassé de dogmes de fer, empanaché d'oracles ténébreux et foudroyants, cet autre esprit grondait comme un orage prophétique et menaçant, et tournait autour de la France. Il avait nom Joseph de Maistre. Or, parmi beaucoup de livres sur l'avenir de la France, devinés phrase par phrase sur le gouvernement temporel de la Providence, sur le principe générateur des constitutions, sur le pape, sur les délais de la justice divine et sur l'Inquisition, voulant démontrer, sonder et dévoiler aux yeux des hommes les sinistres fondations qu'il donnait, problème éternel, à l'autorité de l'homme sur l'homme, voici en substance ce qu'il écrivait. La chair est coupable, maudite et ennemie de Dieu. Le sang est un fluide vivant, le ciel ne peut être apaisé que par le sang. L'innocent peut payer pour le coupable. Les anciens croyaient que les dieux accouraient partout où le sang coulait sur les autels. Les premiers docteurs chrétiens crurent que les anges accouraient partout où coulait le sang de la véritable victime. L'effusion du sang est expiatrice. Ces vérités sont innées. La croix atteste le salut par le sang. Et depuis, Origène a dit justement qu'il y avait deux rédemptions. Celle du Christ qui racheta l'univers et les rédemptions diminuées qui rachètent par le sang, celui des nations. Ce sacrifice sanglant de quelques hommes pour tous se perpétuera jusqu'à la fin du monde. Et les nations pourront se racheter éternellement par la substitution des souffrances expiatoires. Oui, c'était ainsi qu'un homme, doué d'une des plus hardies et des plus trompeuses imaginations philosophiques qui jamais aient fasciné l'Europe, était arrivé à rattacher au pied même de la croix le premier anneau d'une chaîne effrayante et interminable de sophismes ambitieux et impies, qui semblait adorer consciencieusement et qu'il avait fini peut-être par regarder du fond du cœur comme les rayons d'une sainte vérité. Et c'était à genoux, sans doute, et en se frappant la poitrine, qu'il s'écriait « La terre, continuellement imbibée de sang, des canaux tels immenses où tout ce qui vit doit être immolé sans fin jusqu'à l'extinction du mal. Le bourreau est la pierre angulaire de la société. Sa mission est sacrée. L'inquisition est bonne, douce et conservatrice. » La bulle in coena domini est de source divine. C'est elle qui excommunie les hérétiques et les appelant au futur concile. Et pourquoi un concile, grand Dieu, quand le pilori suffit? Le sentiment de la terreur d'une puissance irritée a toujours subsisté. La guerre est divine, elle doit régner éternellement pour purger le monde. Les races sauvages sont dévouées et frappées d'anathème. J'ignore leurs crimes, ô Seigneur, mais puisqu'elles sont malheureuses et insensées, elles sont criminelles et justement punies de quelques fautes d'un ancien chef. Les Européens, au siècle des colons, ont eu raison de ne pas les compter dans l'espèce humaine comme leurs semblables. La terre est un autel qui doit être éternellement imbibé de sang. Ô pieux impie, mais qu'avez-vous fait? Jusqu'à cet esprit falsificateur, l'idée de la rédemption de la race coupable s'était arrêtée au calvaire. Là, Dieu, immolé par Dieu, avait lui-même crié « Tout est consommé ». N'était-ce pas assez du sang divin pour le salut de la chair humaine? Non! L'orgueil humain sera éternellement tourmenté du désir de trouver au pouvoir temporel absolu une base incontestable. Et il est dit que toujours les sophistes tourbillonneront autour de ce problème et s'y viendront brûler les ailes. Et qu'ils soient tous absous, excepté ceux qui osent toucher à la vie. La vie, le feu sacré, le feu trois fois saint, que le Créateur lui seul a le droit de reprendre. Droit terrible de la peine sinistre, que je conteste même à la justice. Non, il a fallu à l'impitoyable sophistiqueur souffler comme un alchimiste patient sur la poussière des premiers livres, sur les cendres des premiers docteurs, sur la poudre des bûchers indiens et des repas anthropophages, pour en faire sortir l'étincelle incendiaire de sa fatalité. Il a fallu trouver et écrire en relief les paroles de cet Origène qui fut un Abélard volontaire. Première immobilisation et premier sophisme dont il crut découvrir aussi le principe dans l'Évangile. Cette obscure et paradoxale Origène, docteur en l'an 190 de Jésus-Christ, dont les principes à demi-platoniciens furent loués depuis sa mort six saints, parmi eux saint Athanase et saint Chrysostome, et condamné par trois saints, un empereur et un pape, parmi eux saint Jérôme et Justinien. Il a fallu que le cerveau de l'un des derniers catholiques fouilla bien avant dans le crâne de l'un des premiers chrétiens pour en tirer cette fatale théorie de la réversibilité et du salut par le sang. Et cela pour replâtrer l'édifice démantelé de l'Église romaine et l'organisation démembrée du Moyen-Âge. Et cela, tandis que l'inutilité du sang pour la fondation des systèmes et des pouvoirs se démontrait tous les jours en place publique de Paris. Et cela parce qu'avec les mêmes axiomes, quelques scélérats, lui-même l'écrivait, renversait quelques scélérats, en disant aussi « l'éternel, la vertu, la terreur ». Armé de couteaux aussi tranchants ces deux autorités, et dites-moi laquelle imbibera l'autel avec le plus large arrosoir de sang. Et prévoyait-il, prophète orthodoxe, que de son temps même croîtrait et se multiplierait à l'infini la monstrueuse famille de ces sophismes, et que parmi les petits de cette tigresse race, il s'en trouverait dont le cri serait celui-ci. Si la substitution des souffrances expiatoires est juste, ce n'est pas assez pour le salut des peuples, des substitutions et des évoûtements volontaires et très rares. L'innocent immolé pour le coupable sauve sa nation. Donc il est juste et bon qu'il soit immolé par elle et pour elle. Et lorsque cela fut bien. Mais entendez-vous le cri de la bête carnassienne sous la voix de l'homme? Voyez-vous par quelle courbe, partie de deux points opposés, ces purs idéologues sont arrivés d'en bas et d'en haut à un même point où ils se touchent, à l'échafaud? Voyez-vous comme ils honorent et caressent le meurtre? Que le meurtre est beau, que le meurtre est bon, qu'il est facile et commode, pourvu qu'il soit bien interprété. Comme le meurtre peut devenir joli en des bouches bien faites et quelque peu meublé de paroles impudentes et d'arguties philosophiques. Savez-vous s'il se naturalise moins sur ces langues parleuses que sur celles qui lèchent le sang? Pour moi, je ne le sais pas. Demandez-le, si cela s'évoque, aux massacreurs de tous les temps, qu'ils viennent de l'Orient et de l'Occident. Venez en haillons, venez en soutane, venez en cuirasse, venez, tueurs d'un homme et tueurs de 100 000. Depuis la Saint-Barthélemy jusqu'au Septembre Isade, de Jacques Clément et de Ravaillac à Louvel et des Adrets à Montluc, à Marat, à Schneider, venez, vous trouverez ici des amis, mais je n'en serai pas. Ici, le docteur Noir rit longtemps, puis il soupira en se recueillant et reprit. Ah, monsieur, c'est ici surtout qu'il faut, comme vous, prendre en pitié. Dans cette violente passion de tout rattacher à tout prix, à une cause, à une synthèse, de laquelle on descend à tout, et par laquelle tout s'explique, je vois encore l'extrême faiblesse des hommes, qui, pareil à des enfants qui vont dans l'ombre, se sentent tous saisis de frayeur, parce qu'ils ne voient pas le fond de l'abîme que ni Dieu, ni Créateur, ni Dieu Sauveur n'ont voulu vous faire connaître. Ainsi, je trouve que ceux-là même qui se croient les plus forts, en construisant le plus de systèmes, sont les plus faibles et les plus effrayés de l'analyse, dont ils ne peuvent supporter la vue, parce qu'elle s'arrête à des effets certains, et ne contemple qu'à travers l'ombre dont le ciel a voulu l'envelopper, la cause, avec un grand C, la cause, pour toujours incertaine. Or, je vous le dis, ce n'est que dans l'analyse que les esprits justes, les seuls dignes d'estime, ont puisé et puiseront jamais les idées durables, les idées qui frappent par le sentiment de bien-être que donne la rare et pure présence du vrai. l'analyse et la destinée de l'éternelle ignorante, l'âme humaine. L'analyse est une sonde jetée profondément dans l'océan, elle épouvante et désespère le faible, mais elle rassure et conduit le fort, qui la tient fermement en main. Et ici, le docteur Noir, passant les doigts sur son front et ses yeux, comme pour oublier, effacer ou suspendre ses méditations intérieures, reprit ainsi le fil de son récit. Chapitre 23. La promenade croisée. J'avais fini par m'amuser des institutions de Saint-Just, au point d'oublier totalement le lieu où j'étais. Je me plongeais avec délice dans une distraction complète, ayant dès longtemps fait l'abnégation totale d'une vie qui fut toujours triste. Et tout à coup, la porte par laquelle j'étais entré s'ouvrit encore. Un homme de 30 ans environ, d'une belle figure, d'une taille haute, l'air militaire et orgueilleux, entra sans beaucoup de cérémonie. Ses bottes à l'écuyère, ses éperons, sa cravache, son large fuligé blanc ou vert, sa cravate noire dénouée, l'auraient fait prendre pour un jeune général. « Ah, tu ne sais donc pas si on peut lui parler ?» dit-il en continuant de s'adresser au nègre qui lui avait ouvert la porte. « Dis-lui que c'est l'auteur de Caius Gracchus et Timoléon !» Le nègre sortit, ne répondit rien et l'enferma avec moi. L'ancien officier de dragon en fut quitte pour sa fanfaronnade et entra jusqu'à la cheminée en frappant du talon. « Y a-t-il longtemps que tu attends ici, citoyen ?» me dit-il. « J'espère que comme représentant... « Le citoyen Robespierre me recevra bientôt et m'expédiera avant les autres. Oh, j'ai qu'un mot à lui dire, moi !» Il se retourna et arrangea ses cheveux devant la glace. « Oh, je suis pas un solliciteur, moi !»« Moi, je dis tout ce que je pense, et sous le règne des tyrans bourbons comme sous celui-ci, je n'ai pas fait mystère de mes opinions, moi !» Je posai mes papiers sur la table et je le regardai avec un air de surprise qui lui en donna un peu à lui-même. « Je n'aurais pas cru, lui dis-je, sans me déranger, que vous vinssiez ici pour votre plaisir. » Il quitta tout d'un coup son air de matador et se mit dans un fauteuil près de moi. « Bon, ça, franchement, me dit-il à voix basse, êtes-vous appelé comme je le suis, je ne sais pourquoi ?» Je remarquai en cette occasion, ce qui arrivait souvent alors, c'est que le tutoiement était une sorte de langage de comédie qu'on récitait comme un rôle et que l'on quittait pour parler sérieusement. « Oui, lui dis-je, je suis appelé, mais comme les médecins le sont souvent. Cela m'inquiète peu pour moi, du moins, ajoutai-je en ajoutant sur ces derniers mots. « Ah, pour vous !» me dit-il en époussetant ses bottes avec sa cravache. Puis il se leva et marcha dans la chambre en toussant avec un peu de mauvaise humeur. Il revint. « Savez-vous s'il est en affaires ?» me dit-il. « Bon, je le suppose, répondis-je, citoyen chénier. » Il me prit la main impétueusement. « Oh, ça, me dit-il, vous ne m'avez pas l'air d'un espion ?» « Mais qu'est-ce que l'on veut ici ? Oh, mais si vous savez quelque chose, dites-le-moi » J'étais sur les épines. Je sentais qu'on allait entrer, que peut-être on voyait, que certainement on écoutait. La terreur était dans l'air, partout, et surtout dans cette chambre. Je me levais et marchais, pour qu'au moins on entendît de longs silences et que la conversation ne parut pas suivie. Il me comprit et marcha dans la chambre dans le sens opposé. Nous allions d'un pas mesuré, comme deux soldats en faction qui se croisent. Chacun de nous prit, aux yeux de l'un de l'autre, l'air de réfléchir en lui-même, et disait un mot en passant, et l'autre répondait en repassant. Je me frottais les mains. « Il se pourrait, dis-je assez bas, » en ne faisant semblant de rien et en allant de la porte à la cheminée, qu'on nous eût réunis à dessein. et très haut. « Oh, joli appartement !» Il revint de la cheminée à la porte et en me rencontrant au milieu dit « Oui, je le crois !» Puis en levant la tête « Cela donne sur la cour !» Je passais. « J'ai vu votre père et votre frère ce matin, » dis-je. Et en criant « Quel beau temps il fait !» Il repassa. « Oui, je le savais, mon père et moi, nous ne nous voyons plus. J'espère qu'André ne sera pas longtemps là. » « Oh, ciel magnifique !» Je le croisais encore. « Talien, dis-je, Courtois, Barras, Clausel, sont de bons citoyens. » Et avec enthousiasme, « Oh, c'est un beau sujet, que Thiboléon !» Il me croisa en revenant. « Et Barras, Colonnerbois, l'oiseau Bourdon, Barère, Boissy-Danglars. J'aimais encore mieux mon Fénelon. » Je hâtai la marche. « Ceci peut durer encore quelques jours. »« Oh, dit les vers bien beaux !» Il vint à grands pas et me coudoya. « Les triumvirs ne passeront pas 4 jours. Je l'ai lu chez la citoyenne Vestris. » Cette fois, je lui serrai la main en traversant. « Gardez-vous de nommer votre frère, on n'y pense pas. »« Oh, dit le dénouement bien beau !» À la dernière passe, il me reprit chaudement la main. « Il n'est sur aucune liste, je ne le nommerai pas. Il faut faire le mort. Le neuf, je l'irai délivrer de ma main. Oh, je crains qu'il ne soit trop prévu. » Ce fut la dernière traversée. On ouvrit. Nous étions au debout de la chambre.